Cinquième jour, prime, où a lieu une fraternelle discussion sur la pauvreté de Jésus.
Le cœur agité par mille angoisses, après la scène de la nuit, je me levai le matin du cinquième jour. Déjà sonnait la première heure quand Guillaume me secoua rudement en m'avertissant qu'allaient bientôt se réunir les deux légations. Je regardai dehors par la fenêtre de la cellule et je ne vis rien. Le brouillard de la veille était devenu un linceul lactescent qui enveloppait manifestement tout le plateau. À peine sorti, je vis l'abbaye comme je ne l'avais jamais vue auparavant. Seules les plus grandes constructions, l'église, l'édifice, la salle capitulaire, se profilaient même de loin, de façon plutôt imprécise, ombre parmi les ombres, mais le reste des bâtiments n'était visible qu'à quelques pas. On eût dit que les formes, choses et animaux surgissaient soudain du néant. Les personnes paraissaient émerger du brouillard, d'abord grises comme des fantômes, puis, peu à peu et difficilement reconnaissables. Ayant vu le jour dans les pays nordiques, je n'étais pas neuf à cet élément qui, à d'autres moments, m'aurait rappelé avec quelque douceur la plaine et le château de ma naissance. Mais ce matin-là, les conditions de l'air me semblèrent douloureusement analogues aux conditions de mon âme, et l'impression de tristesse avec laquelle je m'étais réveillé s'accrut au fur et à mesure que je me rapprochais de la salle capitulaire. À quelques pas de la construction, je vis Bernard Guy prendre congé d'une autre personne qu'au premier abord je ne reconnus pas. Puis, comme elle passa tout près de moi, je m'aperçus qu'il s'agissait de Malaki. Il jetait des coups d'œil circulaires, tel un qui veut passer inaperçu, tandis qu'il commet un crime. Mais j'ai déjà dit que l'expression de cet homme était naturellement celle de qui cache ou tente de cacher un inconfessable secret. Il ne me reconnut pas et s'éloigna. Moi, mu par la curiosité, je suivis Bernard et je vis qu'il parcourait du regard des feuillets que peut-être Malaki lui avait remis. Sur le seuil du chapitre, il héla d'un geste de la tête le chef des archers, qui se trouvait là, et lui murmura quelques mots. Puis il entra. Je lui emboîtai le pas. C'était la première fois que je mettais les pieds dans ce lieu, qui, vu de l'extérieur, était de dimensions modestes et sobres de forme. Je me rendis compte qu'il avait été reconstruit, en des temps récents, sur les restes d'une primitive église abbatiale, peut-être détruite en partie par un incendie. En entrant de l'extérieur, on passait sous un portail à la dernière mode, à l'arc en ogive, sans décoration et surmonté d'une rosace. Mais à l'intérieur, on se trouvait dans un vestibule, refait sur les vestiges d'un vieux narthex. En face se présentait un autre portail, avec son arc à la mode ancienne, son tympan en demi-lune admirablement sculpté. Ce devait être le portail de l'église disparue. Les sculptures du tympan était tout aussi belle, mais moins inquiétante que celle de l'église actuelle. Là aussi, le tympan était dominé par un Christ en majesté. Mais à côté de lui, en des poses variées, avec différents objets dans les mains, se trouvaient les 12 apôtres qui, de lui, avaient reçu mission d'aller de par le monde évangéliser les gentils. Au-dessus de la tête du Christ, dans un arc divisé en 12 panneaux, et sous les pieds du Christ, en une procession ininterrompue de figures, étaient représentés les peuples du monde, destinés à recevoir la bonne nouvelle. Je reconnus à leurs costumes les Juifs, les Cappadociens, les Arabes, les Indiens, les Phrygiens, les Byzantins, les Arméniens, les Scythes, les Romains. Mais au milieu d'eux, dans 30 médaillons qui faisaient un arc au-dessus de l'arc des 12 panneaux, se trouvaient les habitants des mondes inconnus, dont nous parlent à peine le physiologue et les récits incertains des voyageurs. J'ignorais l'existence de beaucoup d'entre eux. J'en reconnus d'autres. Par exemple, les Brutiens, avec 6 doigts à chaque main. Les Fauniens, qui naissent des vers qui se forment entre l'écorce et l'aubier des arbres. Les Sirènes, avec leur queue écailleuse, qui séduisent les marins. Les Éthiopiens, au cœur tout noir, qui se défendent des flammes du soleil en creusant des cavernes souterraines. Les Onas Centaures, hommes jusqu'au nombril et ânes en dessous. Les Cyclopes, avec un œil unique de la largeur d'un écu. Scylla, avec sa tête et sa poitrine de fille, son ventre de loup et sa queue de dauphin. Les hommes velus de l'Inde qui vivent dans les marais et sur le fleuve Épigmaride. Les Cynocéphales, qui ne peuvent dire un mot sans s'interrompre et aboyer. Les Schiapodes, qui courent à folle allure sur leur unique jambe et quand ils veulent se protéger du soleil, s'allongent et dressent leurs grands pieds comme une ombrelle. Les astomates de la Grèce, sans bouche, qui respirent par leurs narines et ne vivent que d'air. les femmes barbues d'Arménie, les pygmées, les épistiges, que certains appellent aussi blêmes, qui naissent sans tête, ont la bouche sur le ventre et les yeux sur les épaules, les femmes monstrueuses de la mer Rouge, de 12 pieds de haut avec des cheveux qui leur arrivent au talon, une queue bovine au bas du dos et des sabots de chameau. Et puis ceux qui ont la plante des pieds dirigée vers l'arrière, tant et si bien qu'à les suivre à la trace, on arrive toujours d'où ils viennent et jamais où ils vont. Et encore, ceux dont les yeux brillent comme des lampes, et les monstres de l'île de Circé, corps humain et col des animaux les plus variés.